Ce matin, on va avoir deux versets. Deux versets qui parlent du service. Le premier se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24. C'est un moment où Jean entend les paroles de Jésus. Jésus est dans la dernière semaine avant la croix. Donc on peut déjà réaliser que ce qu'il est en train de dire, ça a quand même quelque chose de fort. Ça a quand même une importance particulière parce qu'il sait que bientôt, il va passer par ce chemin de douleur et aller jusqu'à la croix. Jean chapitre 12, verset 23. Et il en était conscient, Jésus ne s'est pas fait surprendre. Jésus n'a pas été ébahi quand une armée est venue le chercher. D'accord ? Il savait que tout cela devait se passer. Il est le Fils de Dieu, il connaît toutes choses. Et regardez ce qu'il dit. Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et dans sa tête, il savait que glorifié, ça veut dire passer par la croix. Nous, des fois, on a d'autres idées. Hein. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Et regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Vous allez comprendre donc pourquoi j'ai intitulé ce message « Si quelqu'un me sert ». Parce que c'est les paroles mêmes du Seigneur Jésus. Jésus parle du service. Jésus parle déjà dans ce passage, on se rend compte qu'il parle de son service à lui. Le Fils de l'homme n'est pas venu comme un roi conquérant la première fois. Il est venu humblement. Et la Bible nous dit qu'il a pris une forme de serviteur. Il n'est pas venu en me disant « C'est moi qui ai tout le pouvoir, vous devez tous vous prosterner devant moi ». Il est venu dans cette apparence simple pour pouvoir offrir sa vie pour toute l'humanité à cause de notre péché. Parce que nous ne pouvions pas être pardonnés de notre péché par nos propres efforts. Jésus l'a fait pour nous. Et par la foi simple, eh bien nous pouvons être justifiés, avoir une vie nouvelle. Mais il est celui qui a montré par sa propre vie ce qu'était le service et il nous invite. Cette parole est là pour nous dire qu'il y a un service de Dieu qui existe. Si quelqu'un me sert, il y a un « si », ça veut dire que c'est une proposition. C'est jamais une obligation le service. C'est jamais quelque chose qu'on nous impose de faire, servir le Seigneur. Offrir sa vie au Seigneur, c'est quelque chose de pleinement et entièrement volontaire. Et dans ce passage, on voit vraiment tout ce que le Seigneur veut nous dire sur le service. Il a parlé à d'autres reprises, mais il a vraiment insisté dans ce passage sur cela. On va aller, avant d'aller plus loin, dans 1 Pierre chapitre 4, faire la deuxième lecture, puisque je vous l'ai promis. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. C'est très intéressant parce que là, c'est Jean qui vient de rapporter les paroles de Jésus sur le service. Maintenant, c'est Pierre qui rapporte comment, de manière pratique, dans l'Église, on peut vivre le service. Et Pierre et Jean, c'était qui? C'était les deux disciples les plus proches du Seigneur Jésus. Il y avait Jacques aussi, mais on sait que Jacques a connu un temps de persécution, il a été mis à mort. Et donc c'est Pierre et Jean qui nous donnent ce témoignage ce matin par rapport à celui qui veut servir. Regardez ce qu'il est dit, 1 Pierre 4, verset, je vous ai dit 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les paroles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, littéralement, si quelqu'un sert, que ce soit avec la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Si quelqu'un sert, si quelqu'un me sert, va dire le Seigneur Jésus. Et il a le droit de le dire parce que si nous servons sur la terre, même si c'est dans l'Église, c'est toujours et d'abord et surtout le Seigneur Jésus que nous servons. Ça n'est jamais un homme et une femme. Même si Dieu si en servant le Seigneur, on peut faire du bien à ceux qui sont autour, on peut justement agir en faveur de ceux qui sont autour de nous, mais c'est le Seigneur que nous servons. Si quelqu'un me sert, oh, j'ai lu ce verset, je me suis arrêté à si quelqu'un me sert pendant au moins une demi-heure. Juste ça. Parce que quand on y réfléchit, ça, c'est quand même profond, c'est quand même costaud. Et on voit dans ces deux passages, si on les met l'un à côté de l'autre, on voit qu'il y a vraiment des principes qui ressortent de manière évidente. Premier principe, c'est très simple. Le service commence avec un serviteur. Vous allez me dire, mais c'est évident. C'est presque une lapalissade. Oui, mais non. Si on s'arrête et qu'on réfléchit, on va comprendre ce qu'on veut dire. Parce qu'on peut servir Dieu et ne pas avoir un cœur de serviteur. On peut faire des choses pour Dieu et dans notre cœur, être même opposé, résister à Dieu, faire tout le contraire dans notre cœur. Et pourtant, en apparence, faire des choses pour Dieu, et c'est dangereux parce qu'on peut se tromper soi-même et on peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Dieu, ça c'est sûr, parce qu'il voit au plus profond. Avant de faire des choses pour Dieu, il faut offrir sa vie à Dieu, totalement. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Dieu ne nous demande pas de faire des sacrifices à la mort. Hein, vous savez, il y a des religions où ils invitent les gens à se tuer. Et en plus, on sait les dégâts que ça fait. Mais Dieu nous demande, nous, de faire un sacrifice vivant, saint en plus, agréable. Quelque chose qui amène la faveur autour de nous. Avant de travailler dans l'extérieur, on doit laisser Dieu travailler dans notre intérieur, dans notre cœur. Et combien ces principes sont importants. C'est pour ça que Jésus dit « si quelqu'un me sert ». Ça veut dire qu'il parle d'abord d'un individu, il parle d'abord d'une personne. Avant de parler d'un travail, avant de parler d'une cause à défendre, c'est d'abord la personne qui s'offre « Seigneur, je veux être ton serviteur, fais de moi ce que tu veux ». Comme Ésaïe a répondu, vous savez ce qu'il a dit ?« Me voici, envoie-moi ». Et vous savez que le ministère d'Ésaïe, c'était pas le plus simple. Hein. Il n'allait pas prêcher devant des auditoires, des milliers de personnes qui allaient l'applaudir. Ouais, bravo. Non, non, des fois, il allait rencontrer des murs. Hein. Des fois, les gens allaient se liguer contre lui ou alors fermer leurs oreilles. Il va leur prêcher la parole de Dieu. Il va vraiment de tout son cœur parler des paroles du Seigneur. Et les gens vont s'endurcir. Les gens vont s'entêter dans leur mauvaise voie et voir le malheur venir sur eux. Je peux vous dire que c'est pas un ministère facile, celui d'Ésaïe. Mais parce qu'il avait remis sa vie entre les mains du Seigneur, Dieu lui a donné la force. C'est ce qu'on a lu. Si quelqu'un me sert, Dieu va lui donner la force, va lui communiquer la force dont il a besoin. Le service commence avec un serviteur, je dirais même avec un cœur de serviteur. Et tout à l'heure, juste après le culte, c'est ce qu'on va partager. C'est quoi le cœur du serviteur? On va faire quelques allusions, bien sûr, dans ces moments, mais c'est tellement intéressant de voir ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. On peut avoir le désir de servir pour plein de raisons différentes. Parce qu'on voit des besoins précis, parce qu'on sait que c'est ce que doit faire, voilà, la Bible dit « servez », donc on veut servir. Ou parce que quelqu'un nous le demande, le pasteur ou quelqu'un dans l'église, « ah toi tu sais faire ça, il faudrait que tu… » On peut faire le service pour plein de raisons. Mais ça, tout ça ne vaut rien si dans notre cœur on n'a pas le cœur de serviteur. Parce que Dieu attend qu'une chose, c'est notre vie. Dieu attend qu'une chose, c'est qu'on fasse ce qu'il aime. Dieu va au-delà des apparences. Vous savez que vous pouvez avoir une compétence particulière, et ce n'est pas pour autant que ça va forcément plaire à Dieu. J'ai pris cet exemple, alors excusez-moi si vous aimez Céline Dion, mais imaginez que Céline Dion vienne conduire la louange avec ses musiciens. Est-ce que ça sera bien? Techniquement, le top. Techniquement, ça va être bien. Et émotionnellement, ça peut même être super. Parce que la musique est bien apportée, les intonations, tout ça, c'est super. Mais spirituellement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être vide. Ça va être vide parce que le spirituel dépend du cœur de la personne qui sert. Bien sûr, ça dépend de Dieu, mais Dieu cherche des personnes, des hommes, des femmes qui ont le cœur ouvert pour qu'ils puissent se manifester. Et c'est pour ça que même si on n'a pas la voix de Céline Dion, mais qu'on fait les choses de tout notre cœur, et je crois que ce matin, sans jeter de fleurs, c'est ce qui s'est passé encore, ben on vit un temps dans la présence de Dieu. Amen. Quand on laisse le Seigneur se servir de nous en toute simplicité, mais de tout notre cœur, eh bien, on est utile entre ses mains. Mais j'ai pris l'exemple de celui qui fait chanter, mais imaginez, est-ce qu'il y a parmi les hommes politiques certains qui ont une facilité de parler et de communiquer, qui sont des orateurs fabuleux? C'est impressionnant. Il y a des fois, moi j'aime bien écouter les hommes politiques, pas pour ce qu'ils disent forcément, mais pour la façon dont ils parlent. Et c'est très intéressant. Certains, on voit qu'ils ont même un bagou, qu'ils ont une voix grave, ils savent employer les mots qu'il faut au moment approprié, etc., pour défendre leur opinion. Imaginez qu'on demande à un homme politique, voilà, vous avez ce passage de la Bible, parlez-nous sur ce passage de la Bible. Et je suis sûr qu'il le ferait, il nous ferait même un peu rire, il nous ferait même verser la larme, mais spirituellement encore une fois. Est-ce que Pierre, à la Pentecôte, pouvait dire, moi je maîtrise tout ce qui est l'art oratoire, moi je suis un spécialiste, Pierre, le pêcheur, celui qui n'a pas d'éducation, celui qui est un peu brut, rempli du Saint-Esprit, il parle, il transperce le corps, le cœur de 3000 personnes qui donnent leur vie au Seigneur ce jour-là. Ça, c'est se mettre au service du Seigneur. Et le meilleur moyen, de toute façon, ça résume la prédication, le meilleur moyen d'être quelqu'un qui va pouvoir se mettre au service du Seigneur, c'est de dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, parce que, à part mes propres forces, j'y arriverai jamais. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Quand ton Saint-Esprit m'anime, alors je fais des choses qui dépasse ce que je peux penser ou imaginer. Par le Saint-Esprit, ce matin, je suis capable de vous prêcher, alors que j'étais quelqu'un de très timide, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais quand je me tenais devant la classe, je tremblais, quand je voulais faire une ligne droite, c'était des sinusoïdes au tableau, tellement j'étais sous la pression. Et ce matin, ben, ça ne me fait rien, excusez-moi de le dire comme ça, parce que je sais ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je sais que c'est par sa grâce. Mais comment est-ce qu'on devient un serviteur? Comment est-ce qu'on devient quelqu'un d'utile? Pour bien comprendre la question, je vais reformuler la question dans le contexte de ce qu'on vient de lire. Comment quelqu'un peut-il produire du fruit? Jésus a donné la réponse, c'est facile. Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut pas produire du fruit. Frères et sœurs, il n'y a pas de secret. Si nous voulons produire un fruit spirituel, je ne dis pas des fruits techniques ou intellectuels, je parle d'un fruit spirituel où Dieu agit au travers de nous, presque malgré nous. Si nous voulons faire cela, il faut mourir à nous-mêmes. Un seul a dû mourir de manière physique, et c'est pour ça que Jésus, quand il parle, ça le concerne lui en premier. Jésus a dû, parce qu'il a pris sur lui notre péché, parce qu'il a pris sur lui notre condamnation, il a dû payer le prix, il a dû être jugé jusqu'à la mort. Un seul a dû mourir. Et merci Seigneur, parce que nous, on n'a plus besoin de mourir. Par contre, on a besoin de mourir à nous-mêmes. Mourir à notre ancienne vie, à notre ancienne façon de penser. Parce que quand on ne connaît pas le Seigneur, on a certains raisonnements et qui se tiennent en plus, parce que avec les éléments qu'on a, c'est normal. Mais quand on connaît le Seigneur, il vient briller de sa lumière et nous montrer qu'il y a certains raisonnements qu'on a besoin de corriger, qu'on a besoin de changer. Parce que lui, il est brillant, il est clair, il sait ce qu'il veut pour nos vies, il connaît toutes choses. J'ai pris un exemple de mauvais raisonnement, de raisonnement humain. Je vais faire une faveur à Dieu en le servant. Oh là là, Dieu, il ne sait pas ce qu'il gagne avec moi. Hein. Je peux vous dire, quelqu'un qui parle comme ça, ben Dieu ne va pas l'utiliser tout de suite. Parce qu'on ne fait jamais une faveur à Dieu quand on sert. Personne, aussi doué soit-il, ne fait une faveur à Dieu. C'est Dieu qui nous fait la grâce d'être utilisé par lui. Et c'est ça pour n'importe quel. Même passer le balai, c'est une grâce de Dieu. Combien c'est important de le réaliser. Même faire une chose que personne ne voit. La façon même dont on passe le balai, je ne pars pas pour ici, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas mis de caméra pour voir comment ça se passe. Je fais confiance au Seigneur. Il a les meilleures caméras HD, 4K et tout ce que vous voulez au monde. Mais la façon dont on passe le balai, ça montre aussi notre cœur. Vous savez, ceux qui passent le balai et qui mettent tout sous le tapis. Ah, ben comme ça c'est réglé, personne ne le voit. Et puis il y a ceux qui passent le balai, ils enlèvent le tapis et ils nettoient tout à 100%. Parce qu'ils ont à cœur que ça soit propre partout. Ça, c'est une façon
de servir le Seigneur.
Parce qu'on réalise que c'est pour Dieu qu'on le fait. Et Dieu, il voit sous le tapis. Dieu, il voit n'importe où. Il voit là où on ne voudrait pas qu'il voit. Mais parce qu'il est Dieu. Le grain qui est tombé en terre doit mourir. Nous qui voulons nous mettre au service du Seigneur, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons rester dans l'humilité. Et pas dire, Seigneur, oh, quel privilège tu as, Seigneur, de me recevoir dans ta famille. Seigneur, merci parce que tu me reçois. Quelle grâce. Oh, je suis irremplaçable. Dieu ne pourra pas se passer de moi. Quelqu'un a dit, pas chrétien, il a dit, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables qui ont tous été remplacés. Bon, ça c'est dit. Et c'est vrai. Personne dans le royaume de Dieu n'est irremplaçable. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas unique. Chacun d'entre nous est unique. Dieu a des projets personnels pour chacun d'entre nous. Mais si on endurcit son cœur, si on refuse d'obéir, ben Dieu va s'adresser à quelqu'un d'autre à côté pour faire le travail. Et nous, on va passer à côté des projets de Dieu. Que Dieu nous en garde. Mais au contraire, soyons de ceux qui cherchent les projets de Dieu pour nos vies et l'obéissance. Je vais servir dans l'église pour apaiser ma conscience, parce que j'ai fait des erreurs, parce que j'ai des péchés, donc je vais apaiser ma conscience en servant. Je suis désolé de vous dire que la seule chose qui lave la conscience, c'est le sang de Christ, c'est la repentance à la croix. Et le service, c'est, ça vient avec un cœur repentant, avec un cœur pur, je veux servir. Avant, j'ai fait ceci, je chantais à la chorale depuis que je suis petit, alors je veux être chantre dans l'église. Eh bien, pas forcément. C'est pas parce que je sais bien chanter au dehors que Dieu va forcément me demander de chanter au-dedans. Ça dépend de ce qu'il veut pour moi. Alors, bien sûr, ça arrive parfois que Dieu met certaines qualités dans ma vie qui vont être utiles, mais c'est pas systématique, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Je me souviens, j'avais été béni par ce témoignage parce que je vivais un petit peu la même chose à un moment donné. Une jeune fille qui avait un talent pour le chant, la musique. Vraiment, elle avait quelque chose de spécial, un don de Dieu. Même les gens qui ne croyaient pas, ils disaient, elle a un don. Mais elle s'est aperçue petit à petit qu'elle a laissé son don, son talent, se mettre entre elle et Dieu. Elle vivait que pour chanter, que pour faire des répétitions, que pour ça. Et sa piété a commencé à diminuer. Et quand même, elle a été attentive, puisqu'un jour, elle a vraiment senti que le Seigneur lui disait, « Maintenant, stop. Est-ce que tu m'aimes au point d'arrêter tout ça ?» Et il y a eu un combat, vous comprenez bien, dans son cœur, parce que c'était quelque chose qu'elle aimait. Mais finalement, elle a dit, « Oui, Seigneur, je suis prêt à arrêter et à recommencer que quand tu me le diras. » Un mois a passé, rien. 6 mois passent, rien. 1 an passe, 2 ans, 3 ans. 8 ans, 8 ans, elle a arrêté de chanter, elle a arrêté de répéter, elle a arrêté de travailler les instruments. Pendant 8 ans, elle n'a pas fait tout ça. Mais au bout de 8 ans, parce qu'elle a travaillé sa relation avec Dieu, parce qu'elle a compris pourquoi elle faisait les choses, Dieu lui a dit, maintenant c'est bon, tu peux recommencer. Et parce qu'elle a fait ça, ben, quand elle a recommencé à chanter, il y avait son don, oui, mais il y avait le Saint-Esprit surtout qui était sur elle et qui a amené la bénédiction à tellement et tellement de personnes qui l'ont entendu. Combien nous avons besoin de laisser le Seigneur nous remplir de son Saint-Esprit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Vous savez, il y a des choses qui plaisent à Dieu, et puis il y a des choses qui nous plaisent. Et ce n'est pas toujours pareil. C'est pour ça que Jésus dit, il faut perdre sa vie. Ça veut, bien sûr, on le redit, ça ne veut pas dire se donner la mort, mais il faut perdre ces choses qui nous plaisent, pour chercher celle qui plaise à Dieu, parce que c'est ainsi que le Saint-Esprit va pouvoir se servir de nous avec force. C'est pour ça que de manière pratique dans cette église, et de manière générale dans les églises, avant que quelqu'un serve, c'est bien qu'il rencontre le pasteur pour voir quelle est sa motivation, qu'est-ce qui le pousse à servir. Ça permet de clarifier les choses pour tout le monde et d'avancer ensuite d'un même cœur et d'une même âme. Quand Jésus dit « si quelqu'un me sert », et la suite, ça veut dire il y a des critères, il y a des conditions. On ne fait pas n'importe comment le service pour Dieu. Bien sûr, c'est dans la simplicité, c'est dans l'amour, c'est dans le partage, c'est dans la paix, etc. Mais il y a des conditions. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Le deuxième principe, il est simple, c'est que le service contribue à ma croissance dans la foi. Celui qui sert Il suit le Seigneur. Celui qui sert, il a le souci d'aller là où le Seigneur le conduit. Il a le souci d'aller là où il y a la présence de Dieu. Il a le souci de bien faire les choses. Et véritablement, ça aussi, c'est quelque chose qui nous permet de servir dans le bon état d'esprit. Le service nous garde en mouvement. Vous comprenez cette pensée-là ? Le service nous pousse toujours vers l'avant. Quand on attend les bras croisés, que tout le monde nous fasse tout, mais on a tendance à s'encrouter, excusez-moi l'expression. Mais quand on se met au service, c'est pas toujours facile. On n'a pas toujours les forces qu'il faut, mais c'est un temps où le Seigneur nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes par sa grâce. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ça nous permet de rester attentif à là où le Seigneur est présent. Quand je sers le Seigneur, c'est très simple. Quand je veux prêcher, je peux prêcher parce que j'ai 15 000 notes sur mon ordinateur, je peux faire des copier-coller, etc. Ou alors je peux demander au Seigneur, par la prière, par la lecture de sa parole, de m'inspirer. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Je peux chercher la présence de Dieu, être là où le Seigneur est. Et moi, ma prière à chaque fois que je prépare un message, c'est « Seigneur, où veux-tu conduire ton Église ?» C'est quoi ma vision ? Je vais faire les choses dans ma vision ? Non. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu, toi, pour ton Église ? Et si je peux être un instrument pour donner ces paroles, ben, Seigneur, je veux l'être. Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, vous avez bien compris que quand on parle de service et serviteur, on ne parle pas que des pasteurs. Souvent, on a cette expression « le serviteur de Dieu ». Alors oui, c'est vrai, je suis un serviteur de Dieu, mais vous aussi. Nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur, parce que nous avons tous une œuvre, un don, une grâce que le Seigneur nous confie pour le mettre au service des autres. Combien le service est important ? Un philosophe espagnol, il parlait d'un aqueduc romain de Ségovie, là où il était né en Espagne, qui a été construit en 109 après Jésus-Christ. Il était long de 15 km et haut de 28 mètres. Et pendant 1800 ans, il a transporté de l'eau fraîche des montagnes vers la ville, qui avait besoin d'eau. Un aqueduc, 1800 ans, 18 siècles de service. Et puis, il y a des gens qui ont réfléchi, ils ont dit « Oh, c'est un monument tellement beau, tellement historique et tout ça, il faut en prendre soin. Alors, on va arrêter de l'utiliser pour qu'il amène l'eau, on va le classer monument national et à l'UNESCO et tout ce que vous voulez. » Mais vous savez quoi, ils ont fait ça. Et dès l'instant où ils ont arrêté de l'utiliser, le monument, il a commencé à s'écrouler. Parce qu'il était maintenu par son activité et il était rafraîchi, mais dès que le soleil a commencé à taper et qu'il n'y avait pas d'eau, les pierres ont commencé à sécher et à s'écrouler les unes après les autres. Combien c'est important de servir. Combien c'est important de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Attention, il n'est pas question de faire plus, hein, mais de faire ce que le Seigneur met sur notre cœur. Parce que ça nous permet de grandir, de croître. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Moi, j'aime le Seigneur parce qu'il ne nous dit pas « Sers-moi, tu vas voir, c'est dur, tu vas voir, c'est compliqué. » C'est vrai en plus, hein. Mais il nous dit « Oui, tout ça c'est vrai, mais tu vas voir, le Père va t'honorer. Tu vas avoir une récompense dans le ciel. » Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on se répète pour s'auto-persuader ? Moi, je crois, je vous le dis, je crois qu'il y en a plusieurs qui sont comme moi, que si nous servons le Seigneur de tout notre cœur sur la terre, que nous voyons le fruit ou pas maintenant, dans le ciel, on aura la récompense. Parce que Dieu le voit, Dieu connaît, Dieu sait toutes choses. Dieu sait les fois où on s'est mis en prière tout seul, dans notre chambre, en train de pleurer, peut-être pendant des heures, pour qu'une situation change. Personne ne nous a vus, personne ne nous a applaudis. Mais je peux vous dire que dans ces moments-là, il y avait la fête dans le ciel. Et il y avait un combat spirituel dans le ciel, des anges qui remportaient une victoire pour que la situation puisse être changée, parce qu'il y avait un Dieu qui voit dans le secret. Et qui, la Bible nous dit qu'il nous le rendra. Mais quand ? Ça lui appartient. Nous, on veut tout de suite, maintenant, allez. Non, quand le Seigneur le voudra, il fera son œuvre. Mais Jésus dit, si quelqu'un me sert, frères et sœurs, écoutez cette parole, si quelqu'un me sert, c'est le Père, c'est Dieu le Père qui vous honorera. Dieu s'engage à honorer celui qui le sert. Oh, rien que pour ça, ça donne envie, hein. Rien qu'en relisant le verset, j'ai encore à nouveau envie de servir le Seigneur. Merci Seigneur, oui. Le service sera couronné un jour. Mais si quelqu'un sert le Seigneur, il ne doit pas s'attendre à la gloire des hommes. Vous savez que les pharisiens étaient des spécialistes pour servir, mais pour être vus et pour être applaudis des hommes. Mais nous voulons servir, nous, pour honorer Dieu. Et c'est tout. Tant mieux si on nous dit merci, tant mieux si on reconnaît notre travail, tant mieux si ces choses-là se passent. Et quand on est croyant et que quelqu'un nous rend service, combien on a intérêt à être reconnaissant. Mais si ça ne se fait pas, eh bien c'est pas grave. Je le fais quand même parce que je le fais pour Dieu. Si quelqu'un oublie de me dire merci, de me dire bonjour, de me dire quelque chose, mais que j'ai servi, gloire au Seigneur. Amen. Alors moi, je prends le soin, bien sûr, quand quelqu'un agit, quand quelqu'un fait quelque chose, de lui dire merci parce que je trouve que c'est normal. Mais c'est pas ça le but. Vous avez bien compris. Le but, c'est d'honorer Dieu. D'ailleurs, il a dit « J'honorerai celui qui m'honore ». Quand nous servons, notre désir, ça doit être de rendre la gloire à Dieu. Et puis en allant, en revenant à 1 Pierre 4, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Avez-vous remarqué que ce passage nous parle que le service est une bénédiction, ça renforce la communion fraternelle. Amen. En êtes-vous convaincu vraiment? Le service renforce la communion fraternelle. Parce que quand Dieu nous donne un don, nous fait une grâce, c'est pas que pour nous. Le fruit que produit un arbre, il n'est pas pour l'arbre. Il est pour les gens qui sont autour. Et le service pour Dieu, c'est de mettre à disposition de ceux qui sont autour de nous la grâce que Dieu nous a faite. C'est pour ça que ça renforce la communion fraternelle. Si chacun reste chez soi et dit « Moi, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait grâce, super, je vis de ça », eh bien, je loupe une dimension de la foi. Parce que celui qui a reçu de Dieu, s'il veut être un bon gestionnaire, dispensateur, ça veut juste dire être gestionnaire. Dieu nous fait des grâces. Ça ne nous appartient pas. À nous de l'utiliser correctement. Comment bien l'utiliser? Je mets au service des autres. Mettre au service des autres. Alors, ça ne veut pas dire que je m'impose. Ah, je sais bien cuisiner une salade de salsifis. Donc maintenant, à toutes les agapes, je vais faire 15 kilos de salade de salsifis. C'est comme ça, un point, c'est tout. Non, mais on n'aime pas ça, la salsifis. C'est pas grave, je le fais quand même, c'est que ça que je sais faire. Non, c'est pas ça, mettre à disposition. Je sais faire ça, s'il y en a besoin, je le fais, sinon je le fais pas. Vous voyez, c'est proposer toujours. Moi, j'ai dit ça parce que j'aime pas trop les salsifis, hein, vous avez compris. Mais j'en mangerai quand même s'il faut. Mettre au service des autres le don que l'on a reçu, c'est très large. Parce que parfois, on visualise l'église, on visualise ce qui se passe dans l'église, on visualise l'estrade et on se dit, c'est ça le service, oh là là. Mais ça va tellement plus loin. Mettre au service des autres sa maison, mettre au service des autres sa voiture pour aller chercher quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, mettre au service des autres son téléphone pour prendre des nouvelles de quelqu'un, mettre au service des autres son temps pour aller visiter des personnes, mettre au service des autres ses prières, mettre au service des autres juste sa présence dans une réunion, juste le fait d'être là. Tout ça, ce sont des façons de servir. Et c'est pas cloisonné. On aime bien cloisonner les choses, vous avez remarqué. Mais Dieu, lui, il n'est pas cloisonné. Notre vie entière, c'est le service. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est servir le Seigneur. Et combien c'est important de le réaliser. Dernier principe pour ce matin, la force pour le service est communiquée par Dieu. C'est ce qu'on vient de lire dans ce verset, hein. Si quelqu'un sert, que ce soit avec la force que Dieu communique. Souvent, on essaye de faire des choses par nos propres forces. Souvent, on voit des gens qui s'épuisent. Quand on regarde les églises avec les années et qu'on étudie un peu ce qui s'est passé, on voit des gens qui se sont épuisés, des gens qui se sont laissés piéger par plein de choses et pourtant, ils servaient Dieu. Mais parce que peut-être qu'ils allaient au-delà de ce que Dieu leur demandait et peut-être parce qu'ils ne cherchaient pas la force. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, ne vous inquiétez pas, il va vous donner la force de faire la chose en question. Dieu ne pourra pas, ne peut pas, ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas ne pas nous aider s'il nous demande de faire quelque chose. C'est impossible, parce qu'il est fidèle. Et il sait selon nos forces. Il ne permettra pas que l'épreuve soit au-delà de nos forces. Il nous donnera toujours la force nécessaire pour accomplir. Donc si À un moment donné, on est épuisé, c'est bien de se réfléchir, de dire, est-ce que c'est moi qui suis allé trop loin? Est-ce que c'est moi qui ne suis plus dans la volonté de Dieu? Ou est-ce que j'ai besoin de demander à Dieu la force nouvelle pour agir? Mais c'est bien de s'arrêter et de réfléchir dans ces situations-là. Quand nous sommes épuisés, frères et sœurs, réfléchissons. Arrêtons-nous et cherchons la volonté de Dieu. Et puis prions surtout, Seigneur, renouvelle mes forces. Si quelqu'un me sert. Est-ce que ce verset, mon frère, ma sœur, mon ami qui est là ce matin, est-ce que ce verset t'interpelle? Si quelqu'un me sert. Seigneur, et là, il nous propose à tous, à tout un chacun, de rentrer dans cette dimension. On peut croire en Dieu toute sa vie et ne jamais servir Dieu. Et c'est tellement malheureux. J'ai vu des gens frustrés, des gens qui combattaient, des gens qui étaient là dans, et qui n'arrivaient pas à remporter des victoires parce qu'ils attendaient que Dieu les aide avant de servir. Mais quelqu'un qui a compris que la foi, c'est l'action dans l'amour, ben, va comprendre que combien c'est quelque chose qui plaît à Dieu de le servir. Fermons les yeux quelques instants. Ce matin, peut-être quelqu'un a réalisé qu'il n'est pas un serviteur parce que sa vie n'est pas en règle. C'est très simple de devenir un serviteur de Dieu. Il faut simplement mourir à soi-même, renoncer à sa propre vie et dire, Seigneur, je sais que tes projets sont bons. Je sais que tu ne me demanderas jamais l'impossible. Mais je sais que ce que je fais maintenant ne te plaît pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais qu'à la croix, tu as pardonné mon péché. Je ne mérite rien, mais tu me donnes le privilège de te suivre. Merci, Seigneur. Et alors que quelqu'un fait cette prière dans son cœur, et Dieu pardonne, Dieu libère, Dieu sauve. Mon frère, ma sœur, toi qui connais le Seigneur depuis longtemps, où en es-tu du service ce matin? Je ne parle pas d'un service spécifique dans l'Église, mais quel est ton cœur devant ton Seigneur? Où en es-tu par rapport à cette vie qui veut s'offrir entièrement à Dieu? Ce matin, le Saint-Esprit est là pour nous parler aux uns et aux autres. Et Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ce n'est pas possible de suivre le Seigneur et de rester les bras croisés. Ce n'est pas possible de suivre le Seigneur et d'être indifférent à la souffrance de ce monde. Ce n'est pas possible de suivre le Seigneur et de ne pas être attentif à son prochain. Mais le Seigneur est là pour nous remplir de sa force. Ce matin, Seigneur, nous prions, oui, que tu puisses communiquer une force nouvelle à ton peuple, selon nos besoins, selon l'appel que tu as mis sur chacune de nos vies. Oui, nous sommes une église, Seigneur, devant toi, qui a soif d'être utilisée par toi, parce que nous voulons la bénédiction de cette ville, parce que nous voulons la bénédiction de ce département. Et Seigneur, voilà pourquoi nous prions, prends notre vie, Seigneur, prends nos âmes, prends nos corps, prends tout ce que nous sommes. Nous voulons nous offrir à toi, comme tout à nouveau, comme au premier jour. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses révéler, nous donner ce discernement pour savoir quoi faire, quoi dire, quoi penser. Seigneur éternel, viens nous visiter ce matin. Viens, Seigneur, nous conduire dans ta volonté. Oui, nous prions que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et nous savons que c'est par ton Église sur la terre que tu vas faire venir ton règne, Seigneur. Nous savons que ta volonté va être accomplie par ceux qui sont tes serviteurs. Alors aide-nous à rentrer dans ce travail. Et merci pour le privilège. Merci pour cette dimension de grâce dans laquelle tu nous fais entrer, Seigneur. Merci Éternel, nous bénissons ton nom ce matin et nous prions que ta bénédiction puisse reposer sur nos vies, sur nos âmes et sur nos cœurs. Viens par ta lumière faire briller nos chemins afin que nous accomplissions tes œuvres. Amen.